Charles Dickens, Barnaby Rudge, traduction de M. Bonhomé. Chapitre 53. Le jour du lendemain fut annoncé au monde par de joyeux carillons et par des coups de canon tirés à la tour. On hissa des drapeaux sur un grand nombre de flèches des clochers de la ville. En un mot, on accomplit toutes les cérémonies d'usage en l'honneur du jour anniversaire de la naissance du roi, et chacun s'en alla vaquer à ses plaisirs ou à ses affaires, comme si Londres était dans un ordre parfait, et qu'il n'y eut pas encore dans quelques-uns de ses quartiers des cendres chaudes qui allaient se rallumer aux approches de la nuit pour répandre au loin la désolation et la ruine. Les chefs de l'émeute, rendus plus audacieux encore par leur succès de la nuit dernière et par le butin qu'ils avaient conquis, retenaient fermement unis les masses de leurs partisans et ne songeaient qu'à les compromettre assez pour n'avoir plus à craindre que l'espoir de leur pardon ou de quelque récompense ne leur donnât la tentation de trahir et de livrer entre les mains de la justice les ligueurs les plus connus. Il est sûr que la crainte de s'être trop avancé pour pouvoir désormais obtenir leur pardon retenait les plus timides sous leur drapeau, non moins que les plus braves. Beaucoup d'entre eux, qui n'auraient pas fait difficulté de dénoncer les chefs et de se porter témoin contre eux en justice, sentaient qu'ils ne pouvaient espérer leur salut de ce côté parce que leurs propres actes avaient été observés par des milliers de gens qui n'avaient pas pris part aux troubles, qui avaient souffert dans leur personne, leur tranquillité, leurs biens, des outrages de la populace, qui ne demanderait pas mieux que de porter témoignage et dont le gouvernement du roi préférerait sans doute les déclarations à celles de tous autres. Dans cette catégorie se trouvaient beaucoup d'artisans qui avaient laissé là leurs travaux le samedi matin. Il y en avait même que leur patron avait revu, prenant une part active au tumulte. D'autres se savaient soupçonnés et n'ignoraient pas que s'ils revenaient dans leurs ateliers, ils seraient remerciés sur le champ. D'autres, enfin, avaient agi en désespéré dès le commencement et se consolait avec ce proverbe populaire qui dit que « pendu pour pendu, autant vaut l'être pour un mouton que pour un agneau ». Tous d'ailleurs espéraient et croyaient fermement que le gouvernement, qu'ils semblaient avoir paralysé, finirait, dans son épouvante, par compter avec eux et par accepter leurs conditions. Les plus raisonnables se disaient qu'au pis-aller, ils étaient trop nombreux pour qu'on pût les punir tous, et chacun aimait à croire qu'il avait autant de chances d'échapper au châtiment que personne. Quant à la masse, elle ne raisonnait pas et ne pensait à rien, obéissant seulement à ses passions impétueuses, aux instincts de la pauvreté, de l'ignorance, à l'amour du mal, à l'espérance du vol et du pillage. Il est encore à remarquer que, à partir du moment de leur première explosion à Westminster, tout symptôme d'ordre arrêté d'avance ou de plan concerté entre eux avait disparu. Quand ils se divisaient par bandes pour courir dans les différents quartiers de la ville, c'était d'après une inspiration soudaine et spontanée. Chacune d'elles se grossissait sur son chemin comme les rivières à mesure qu'elles coulent vers la mer. Chaque fois qu'il leur fallait un chef, ils s'en présentaient un, qui disparaissait sitôt que l'on n'en avait plus besoin pour reparaître encore à la première nécessité. Le tumulte prenait chaque fois une forme nouvelle et inattendue selon les circonstances du moment. On voyait de braves ouvriers retournant chez eux après une journée de travail jeter là leurs outils pour se mêler activement à l'émeute en un instant, des sauteruisseaux en faisant autant, laissant là les commissions dont ils étaient chargés en ville. En un mot, c'était comme une peste morale qui était tombée sur Londres. Le bruit, le tumulte, l'agitation avaient pour eux un attrait irrésistible qui les séduisait par centaines. La contagion s'étendait comme le typhus. Le mal, encore à l'état d'incubation, infectait à chaque heure de nouvelles victimes et la société commençait à s'alarmer sérieusement de leur fureur. Il était à peu près 2 ou 3 heures après-midi lorsque Gashford vint dans le repère que nous avons décrit au dernier chapitre et, n'y trouvant que Denis et Barnaby, s'informa de ce qu'était devenu Hugues. Il était sorti, à ce que lui dit Barnaby, il y avait bien 1 heure et n'était pas encore revenu. « Denis !» dit le souriant secrétaire de sa voix la plus doucereuse en se tenant les jambes croisées sur un baril. « Denis !» Le bourreau, se réveillant en sursaut, se mit sur son séant et, le regardant les yeux tout grands ouverts, « Comment ça va-t-il, Denis ?» dit Gashford, le saluant d'un signe de tête. « J'espère que vous n'avez pas eu à vous plaindre de vos dernières expéditions, Denis !»«
Maître Gashford, » répondit le bourreau, fixant sur lui les yeux, « vous avez une manière si tranquille de dire les choses qu'il y a de quoi faire sauter au plancher. Nom d'un chien !» ajouta-t-il entre ses dents, sans détourner les yeux d'un air pensif. « Vous avez quelque chose de si rusé ?»« de si distingué, voulait dire Dennis.
De si distingué, reprit l'autre en se grattant la tête,
toujours sans quitter des yeux les traits du secrétaire, que quand vous me parlez, je crois entendre chacun de vos mots jusque dans la moelle de mes os.
Je suis charmé de vous voir, Louis, si subtil, et je m'applaudis de savoir me rendre pour vous si intelligible, dit Gashford de son ton uniforme et invariable. Où est votre ami ?
Monsieur Dennis se retourna comme s'il s'attendait à le trouver endormi sur son lit de paille, puis, se rappelant qu'il l'avait vu sortir,
« Je ne peux pas vous dire, maître Gashford, je croyais qu'il devait rentrer plus tôt que ça. J'espère que ce n'est pas encore le moment de nous mettre à la besogne, maître Gashford. »«
Mais, dit le secrétaire, je vous le demande, comment voulez-vous que je vous dise ça, Dennis ? Vous êtes parfaitement maître de vos actions, vous savez, et vous n'en rendrez compte à personne, si ce n'est à la justice de temps à autre, n'est-ce pas ?»
Dennis, tout dérouté par le sang-froid de manière et de langage de son patron, reprit pourtant son assiette en lui entendant faire cette allusion à sa profession et lui montra Barnabé en secouant la tête et en fronçant le sourcil.
« Chut !» cria Barnabé.
« Ah, motus là-dessus, maître Gashford, dit le bourreau à voix basse, les préjugés populaires, vous n'y pensez jamais. Eh bien quoi, Barnabé, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?»«
Je l'entends, qui vient ?» répondit-il. « Écoutez, remarquez-vous ça, c'est son pied. » N'ayez pas peur, je reconnais bien son pas et celui de son chien aussi. Tramp, tramp, pit, pat, c'est bien ça. Ils s'en viennent tous les deux et tenez, les voici.
Il criait joyeusement, saluant à deux mains la venue de son camarade auquel il donna de petites tapes d'amitié sur le dos comme si ce rude compagnon était le plus aimable des hommes.
Le voici et il n'a pas de mal encore. Je suis bien content de le voir revenu, ce vieux Hugues.
« Je veux être un renégat s'il ne me fait pas toujours un meilleur accueil que les gens raisonnables, » dit Hugues en lui secouant la main avec une tendresse étrange qui ressemblait à de la rage.
« Et vous, garçon, comment allez-vous ? » ?»«
À merveille, » cria Barnabé, ôtant son chapeau.
« Et la joie au cœur, Hugues, et tout prêt à faire ce qu'on voudra pour la bonne cause et la justice, et à soutenir ce bon gentleman si doux et si blême, ce lord qu'ils ont maltraité, n'est-ce pas, Hugues ?»
« Oui, » répondit son ami, laissant aller sa main et regardant un moment Gashford avec un changement d'expression notable avant de lui dire
« Bonjour, maître !»«
Bonjour donc, » répliqua le secrétaire en se caressant la jambe. « Et puis encore bonjour et bonne année, accompagné de beaucoup d'autres. Vous êtes échauffé. »«
Ma foi, maître, vous le seriez bien autant que moi, »
dit-il en s'essuyant la figure, « si vous étiez venu ici en courant aussi vite que moi. »«
Alors, vous savez les nouvelles. En effet, j'ai supposé que vous deviez les savoir. »«
Les nouvelles ? Quelles nouvelles ?»«
Quoi, vous ne savez pas ?» cria Gashford, relevant les sourcils avec une exclamation de surprise. « Est-ce possible ? Alors, venez donc. C'est moi qui vais vous faire connaître votre honorable position après tout. »«
Voyez-vous, là-haut, les armes du roi ?» lui demanda-t-il d'un air souriant en prenant dans sa poche un papier qu'il déploya sur les yeux de Hugues.
« Eh bien, qu'est-ce que ça me fait ?»«
Ça vous fait beaucoup, mais beaucoup !» répliqua le secrétaire. « Lisez-moi ça !»«
Vous savez bien que la première fois que je vous ai vu, je vous ai dit que je ne savais pas lire !»
dit Hugues d'un air d'impatience. « Au nom du diable, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ?»«
C'est une proclamation ?» émané du roi en son conseil, dit Gashford. Elle est datée d'aujourd'hui et promet une récompense de 500 guinées. 500 guinées, c'est bien de l'argent et une grande tentation pour certaines gens à quiconque dénoncera la personne ou les personnes qui ont pris la part la plus active aux démolitions de ces chapelles catholiques de samedi soir.
Mais ce n'est que ça. Cria Hugues d'un air indifférent. « Je le savais déjà. »
« J'aurais bien dû m'en douter, » dit Gashford, souriant et repliant le document. « J'aurais dû deviner que votre ami vous l'avait dit. »«
Mon ami, » bégaya Hugues, faisant des efforts maladroits pour simuler la surprise. « Quel ami ? »
« Croyez-vous que je ne sais pas d'où vous venez ?» repartit Gashford en se frottant les mains et se donnant de petites tapes du revers de l'une contre le creux de l'autre avec un regard de fin renard.
Vous me croyez donc bien bête. Voulez-vous que je vous dise son nom ?
Non pas, dit Hugues en jetant un coup d'œil rapide du côté de Denis.
Il vous aura sans doute appris aussi, continua le secrétaire après une petite pause, que les émeutiers qui ont été pris, les pauvres diables, sont traduits en justice et qu'il y a déjà des témoins très actifs qui ont eu la témérité de comparaître à leur charge. Entre autres, et ici il serra les dents comme pour étrangler quelques mots violents qui lui venaient sur le bout de la langue et se mit à parler lentement, entre autres, un gentleman qui a vu toute la scène à Warwick Street, un gentleman catholique, un certain Airedale.
Hugues aurait voulu l'empêcher de prononcer ce nom, mais c'était déjà fait, et Barnabé, qui l'avait entendu, s'était retourné précipitamment.
« à votre poste, brave Barnabé !» cria Hugues, prenant son ton le plus brusque et le plus décidé, et lui mettant dans la main son drapeau appuyé contre la muraille. « Montez la garde sans perdre de temps, car nous allons partir pour notre expédition. Allons, Denis, levons-nous et alerte. Brave Barnabé, vous aurez soin de ne laisser personne retourner ma paillasse. Nous savons ce qu'il y a dessous, n'est-ce pas ? À présent, maître, vivement. Si vous avez quelque chose à nous dire, faites tôt, car le petit capitaine, avec un détachement, est là dans les champs, qui n'attend plus que nous. Vite, des mots qui parlent et des coups qui portent !»
L'attention de Barnabé ne tint pas contre le remue-ménage du départ. Le regard d'étonnement mêlé de colère qu'on avait pu voir dans ses traits quand il s'était retourné tout à l'heure s'était dissipé aussi rapidement que les mots étaient sortis de sa mémoire, comme la laine s'efface sur un miroir poli. Alors, empoignant l'arme que Hugues venait de lui fourrer dans la main, il alla monter fièrement sa faction à la porte, trop loin d'eux pour pouvoir les entendre.
« Vous avez manqué de gâter tout, maître !» lui dit Hugues.
« Oui, vous ! N'est-ce pas drôle ?»«
Qui diable pouvait supposer qu'il eût l'oreille si subtile ?» répondit Gashford pour se justifier. « Subtile ! Ma foi, je ne parle pas de ses mains. Vous les avez vues à l'œuvre. Mais il a quelquefois la tête même aussi subtile que vous et moi, » dit Hugues. « Denis, nous devrions être partis, on nous attend. Je suis venu vous le dire, donnez-moi mon bâton et mon baudrier, un petit coup de main, notre maître, passez-moi ça par-dessus l'épaule et bouclez-le par derrière, s'il vous plaît. »«
Leste comme toujours, » dit le secrétaire en lui ajustant son fourniment.
« C'est qu'il faut être leste aujourd'hui. Nous avons à faire une besogne un peu leste. »
« Est-ce vrai ? » dit Gashford, avec un air si innocent que l'autre, le regardant par-dessus l'épaule d'un air courroucé, lui répliqua
« Est-ce vrai ? Vous le savez bien que c'est vrai, comme si vous ne saviez pas mieux que personne que la première précaution à prendre, c'est d'aller faire des exemples sur ces témoins-là pour faire peur aux autres et leur apprendre à venir encore déposer contre nous et contre les membres de notre association. »
« Je connais quelqu'un, et vous aussi, » reprit Gashford avec un sourire expressif, « qui sait cela au moins aussi bien que vous et moi. »
« Le gentleman que je pense est le même que celui dont vous parlez, comme je le crois, » reprit Hugues d'un ton radouci. « Il faut donc qu'il soit aussi bien informé de tout que... »
Ici, il s'arrêta pour regarder autour de lui, comme pour s'assurer que le gentleman en question n'était pas là.
« Que le diable en personne. Voilà tout ce que je peux dire. Voyons, est-ce tout, maître ? Vous n'en finirez donc pas ce soir ?»
« Eh bien, voilà qui est fini, » dit Gashford en se levant. « À propos, je voulais encore vous dire... « Comme cela, vous n'avez pas trouvé que votre ami désapprouva la petite expédition d'aujourd'hui. C'est heureux que cela se rencontre si bien avec la leçon à donner à monsieur le témoin, car je suis sûr qu'il n'a pas plus tôt entendu parler de votre projet qu'il a voulu le voir exécuter. Et à présent, voilà parti, hein ?»«
À présent, nous voilà parti, maître. Vous n'avez pas un dernier mot à nous dire ?»«
Ah ciel, mon Dieu, non !» dit Gashford avec une douceur charmante. « Pas le moindre !»
« Bien sûr !» cria Hugues en poussant du coude Denis qui riait dans sa barbe. « Bien sûr, hein, maître Gashford ?» dit le bourreau, toujours riant d'un rire étouffé.
Gashford réfléchit un moment, indécis, entre sa prudence et sa méchanceté, puis se plaça entre deux et leur posant à chacun une main sur l'épaule. « Mes amis, leur dit-il tout bas d'une voix crispée, n'oubliez pas.
Mais je suis sûr que vous vous en souviendrez. » « N'oubliez pas notre conversation de l'autre soir, chez vous, Denis. Vous savez sur qui ?»«
Pas de merci, pas de quartier. Ne laissez pas deux soliveaux de sa maison debout à la place où les amis le charpentier. »
Le feu, comme on dit, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Que ce soit son maître, il n'en mérite pas d'autre. Mais je suis bien sûr que vous serez ferme. Je suis bien sûr que vous serez résolu. Je suis bien sûr que vous vous rappellerez qu'il a soif de votre sang et de celui de vos braves compagnons. Si vous avez jamais montré ce que vous savez faire, c'est aujourd'hui que vous allez le faire voir, n'est-ce pas, Denis? N'est-ce pas, Hugues?
Ils le regardèrent tous les deux et s'entre-regardèrent après. Alors ils se mirent à pousser un grand éclat de rire, brandirent leurs gourdins au-dessus de leur tête, lui donnèrent une poignée de main et sortirent en courant. Gashford les laissa prendre un peu les devants, puis il les suivit. Il les vit à distance se diriger en toute hâte du côté des champs voisins où leurs camarades étaient déjà rassemblés. Hugues regardait en arrière et faisait tourner son chapeau aux yeux de Barnabé qui, charmé du poste de confiance qu'on lui avait laissé, répliquait de la même manière et reprenait après sa promenade de long en large devant la porte de l'écurie où déjà ses pieds avaient tracé un sentier. Et lorsque Gashford lui-même, déjà loin, se retourna pour la première fois, Barnabé était toujours là, à se promener de long en large, du même pas qu'à danser. C'était bien le plus dévoué et le plus fier champion qui eût jamais été chargé de défendre un poste. Jamais personne ne se sentit au cœur plus d'attachement à son devoir, ni plus de détermination pour le défendre jusqu'à la mort. Souriant de la simplicité de ce pauvre idiot, Gashford se rendit lui-même à Welbeck Street par un chemin différent de celui que devaient suivre les émeutiers, et là, assis derrière un rideau à l'une des fenêtres du premier étage de la maison de Lord George Gordon, il attendit avec impatience leur passage. Ils y mirent tant de temps que, malgré la certitude qu'il avait que c'était bien par là qu'ils étaient convenus de passer, il eut un moment l'idée qu'ils avaient dû changer leur plan et leur itinéraire. À la fin pourtant, le bruit confus des voix se fit entendre dans les champs voisins et bientôt après, ils défilèrent en foule, formant une troupe nombreuse. Cependant, ils étaient loin d'être tous là, comme on s'en aperçut bientôt, quand ils vinrent divisés en quatre sections, puis s'arrêtèrent l'une après l'autre devant la maison pour pousser trois salves de hurrahs, et passèrent ensuite leur chemin après que les chefs qui les conduisaient eurent crié tout haut où ils allaient, en invitant les spectateurs à se joindre à eux. Le premier détachement, portant en bannière quelques restes du pillage qu'ils avaient consommé à Moorfield, proclama qu'ils étaient en route pour Chelsea, d'où ils reviendraient dans le même ordre pour faire tout près de là un feu de joie des dépouilles qu'ils en rapporteraient. Le second déclara qu'ils allaient à East Smithfield pour le même objet. Tout cela se faisait en plein soleil au grand jour. De beaux équipages ou des chaises à porteurs s'arrêtaient pour les laisser passer ou s'en retourner sur leurs pas pour éviter leur rencontre. Les piétons se rangeaient dans l'encoignure d'une allée ou demandaient aux locataires la permission de se tenir à une croisée ou dans le vestibule en attendant que l'émeute fût passée. Mais personne n'intervenait, et sitôt que le flot était écoulé, chacun reprenait son train-train ordinaire. Restait encore la quatrième division, et c'était celle que le secrétaire attendait avec le plus d'impatience. Enfin, la voilà qui s'avance. Elle était nombreuse et composée d'hommes de choix, car en cherchant à les reconnaître, il vit parmi eux bien des figures qui ne lui étaient pas inconnues, et en tête naturellement celle de Simon Tappertit, Hugues et Denis. Ils firent halte, comme les autres, pour pousser leur « hurrah ». Mais quand ils se remirent en marche, ils ne proclamèrent pas comme eux le but qu'ils se proposaient. Hugues se contenta de lever son chapeau au bout de son gourdin et partit après avoir jeté un coup d'œil à un gentleman qui était là, en spectateur, de l'autre côté de la rue. Gashford suivit, par instinct, la direction de ce coup d'œil et vit debout sur le trottoir, avec une cocarde bleue, Sir John Chester, qui leva son chapeau à quelques lignes au-dessus de sa tête pour faire honneur à l'émeute et s'appuya ensuite avec grâce sur sa canne, souriant de la manière la plus agréable, déployant sa toilette et sa personne tout à fait à leur avantage et surtout ayant l'air d'une tranquillité inimaginable. Cela n'empêcha pas, malgré toute son habileté, que Gashford ne le vit bien faire un signe de protection à Hugues pour le reconnaître en passant, car le secrétaire, oubliant la foule, n'eut plus Dieu que pour Sir John. Celui-ci resta à la même place et dans la même attitude jusqu'au moment où le dernier homme de la foule eut tourné le coin de la rue. Alors il prit sans hésiter son chapeau, dont il détacha la cocarde et la remit soigneusement dans sa poche pour la prochaine occasion. Il se rafraîchit avec une prise de tabac, ferma sa tabatière et se remit en marche, tout doucement.
Au même instant, passait une voiture qui s'arrêta. Une main de dame fit tomber la glace et Sir John s'avança aussitôt, le chapeau à la main. Au bout d'une minute ou deux de conversation à la portière, évidemment au sujet de l'émeute, il monta légèrement dans la voiture qui l'emmena. Le secrétaire sourit, mais il avait des sujets plus sérieux en tête et ne songea pas longtemps à celui-là. On lui apporta son dîner, mais il le fit redescendre sans y toucher. Il passa 4 mortelles heures à se promener de long en large dans sa chambre, sans faim et sans repos, à regarder toujours à la pendule, à faire d'inutiles efforts pour s'asseoir et lire, ou à se jeter sur son lit, ou à regarder par la fenêtre. Quand il vit au cadran que le temps marqué était venu, il monta d'un pas furtif jusqu'au haut de la maison, passa sur le toit et s'assit, le visage tourné vers l'est. Il ne s'inquiétait guère ni de la fraîcheur de l'air qui saisissait son front échauffé en venant des prairies voisines, ni des masses de toits et de cheminées qu'il avait sous les yeux, ni de la fumée et du brouillard dont il cherchait à percer les nuages, ni des cris perçants des enfants dans leurs jeux du soir, ni du bruit, ni du tumulte bourdonnant de Londres, ni du gai souffle qui accourait de la campagne pour se perdre et s'éteindre dans le brouhaha de la grande ville. Non, il regardait toujours autre chose, jusque dans l'obscurité de la nuit, tachetée seulement çà et là de quelques jets de lumière le long des rues, à distance. Et plus l'obscurité augmentait, plus augmentait aussi son attention et son inquiétude. « Rien que du noir non plus dans cette direction, » murmurait-il tout bas, incessamment. « L'animal !» Où donc est cette aurore boréale qu'il m'avait promis de me faire voir ce soir dans le ciel ?
Chapitre 54. Pendant ce temps-là, le bruit des troubles de la ville avait déjà circulé joliment dans les bourgs et les villages des environs de Londres. Et chaque fois qu'il arrivait des nouvelles fraîches, elles étaient sûres d'être accueillies avec cet appétit pour le merveilleux et cet amour du terrible, qui sont probablement, depuis le commencement du monde, un des attributs caractéristiques de l'espèce humaine. Cependant, ces rumeurs, aux yeux de certaines personnes de ce temps, comme elles le seraient aux nôtres même, si les faits aujourd'hui n'étaient acquis à l'histoire, semblaient si monstrueuses et si invraisemblables qu'un grand nombre des gens qui habitaient loin de là, quelques crédules qui pussent être d'ailleurs, ne pouvaient réellement se mettre dans l'esprit que la chose fût possible et repoussaient les renseignements qu'ils recevaient de toutes mains comme de pures fables et des fables absurdes. M. Willett, bien décidé à n'en rien croire, d'après des raisonnements infaillibles à lui connus et d'une obstination constitutionnelle dont nous avons déjà eu des preuves, était un de ceux qui refusaient positivement la conversation sur un sujet si ridicule selon eux. Ce soir-là même, et peut-être bien au moment où Gashford était en vedette sur les toits, le vieux John avait la face si rouge, à force de branler la tête pour contredire ses 3 anciens camarades de bouteille, que c'était un vrai phénomène et qu'on aurait payé sa place pour voir ce visage rubicon, sous le porche de l'arbre de mai, où ils étaient assis tous 4, briller comme les escarboucles monstres qu'on rencontre dans les contes de fées. « Croyez-vous, monsieur, » dit M. Willett, regardant fixement Salomon Daisy, car c'était son habitude, toutes les fois qu'il avait une altercation personnelle, de s'en prendre au plus faible de la bande, « croyez-vous, monsieur, que je sois un imbécile de naissance ?»« Non, non, Johnny, » répondit Salomon, regardant à la ronde le petit cercle dont il faisait partie, « nous ne sommes pas assez bêtes pour croire cela. Vous n'êtes pas un imbécile, Johnny, que non, que non. » M. Cobb et M. Parks secouèrent la tête à l'unisson, en marmottant entre leurs dents « Non, non, Johnny, bien loin de là !» Mais comme ces sortes de compliments n'avaient ordinairement d'autre effet que de rendre M. Willett encore plus têtu qu'auparavant, il les examina d'un air de profond dédain et leur répondit en ces termes « Alors, qu'est-ce que vous venez me chanter ? Que ce soir, vous allez faire un tour ensemble jusqu'à Londres, vous trois ?» pour vous en rapporter au témoignage de vos sens. Est-ce que, leur dit M. Willett, mettant sa pipe entre ses dents d'un air de dégoût solennel, le témoignage de mes sens, à moi, ne vous suffit pas ? Mais, dit humblement Parks pour s'excuser, nous n'en avons pas connaissance, Johnny. Vous n'en avez pas connaissance, monsieur,
répéta M. Willett en le toisant des pieds à la tête. « Ah, vous n'en avez pas connaissance. Vous en avez connaissance, monsieur. Ne vous ai-je pas dit que sa benoîte majesté, le roi Georges III, ne laisserait pas plus l'émeute rigoler dans les rues de sa bonne ville de Londres, qu'il ne se laisserait lui-même insulter par son parlement ?»«
À la bonne heure, Johnny, mais c'est là le témoignage de votre bon sens. Ce n'est pas le témoignage de vos sens. » risqua M. Parks.
« Et qu'en savez-vous ? » repartit John avec une grande dignité. « Pour vous permettre là des contradictions un peu lestes, monsieur, qu'en savez-vous si c'est l'un plutôt que l'autre ? Je ne croyais pas vous l'avoir dit encore, monsieur ?»
M. Parks, se voyant embarqué dans une discussion métaphysique dont il ne savait trop comment se tirer, balbutia une apologie et battit en retraite devant son antagoniste. Il s'ensuivit un silence de 10 ou 12 minutes, après lequel M. Willett se mit à grommeler, à branler la tête en éclatant de rire et à faire l'observation, à propos de son défunt adversaire, qu'il l'avait joliment arrangé. Sur quoi M. Cobb et Daisy rirent aussi avec des signes de tête affirmatifs, et Parks fut définitivement considéré comme un homme mort.
« Vous imaginez-vous que si tout cela était vrai, M. Airedale serait toujours dehors comme il l'est ?» dit John après une autre pause. « Croyez-vous qu'il n'aurait pas peur de laisser sa maison toute seule, avec deux jeunes femmes et une couple de serviteurs pour toute défense ?»
C'est vrai, mais c'est peut-être parce que son château est à une bonne distance de Londres. Vous savez qu'on dit que les émeutiers ne s'écartent pas à plus de 2 ou 3 000. La preuve, c'est qu'il y a des catholiques, vous savez, qui ont envoyé pour plus de sûreté leurs bijoux et leur argenterie à la campagne. Du moins, on le dit.
On le dit, répéta M. Willett d'un air bourru. Oui, monsieur, c'est comme on dit que vous avez vu un revenant en mars dernier, mais personne n'en croit rien.
« Eh bien, » dit Salomon, se levant pour distraire l'attention de ses deux amis, qui commençaient à rire de cette boutade, « qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, que ce soit vrai ou faux, si nous voulons aller à Londres, nous ferons bien de partir tout de suite. Ainsi, Johnny, une poignée de main et bonne nuit. »«
Je n'ai pas de poignée de main, » reprit l'aubergiste qui fourra les siennes dans ses poches, « à donner à des gens qui s'en vont à Londres pour de pareilles bêtises. »
Les trois vieux compagnons en furent quittes pour lui prendre les coudes au lieu de lui serrer les mains. Après cette cérémonie, ils décrochèrent leurs chapeaux, prirent leurs cannes, leurs manteaux, lui souhaitèrent le bonsoir et partirent, en lui promettant de lui rapporter le lendemain des détails véridiques sur l'état réel de la ville, et s'il la trouvait tranquille, il lui ferait de bon cœur amende honorable. John Willett les regarda partir sur la route, aux rayons abondants et riches d'une belle soirée d'été. Il fit tomber les cendres de sa pipe, rit en lui-même de leur folie, en s'en tenir les côtes. Il en était encore tout essoufflé, car cela lui prit du temps, vu qu'il n'était pas plus prompt à rire qu'à penser ou à parler. Lorsqu'enfin il s'assit le dos à la muraille, allongea ses jambes sur le banc, se couvrit la figure de son tablier et tomba dans un profond sommeil. Peu importe le temps qu'il dormit, toujours est-il que ce fut assez long, car lorsqu'il s'éveilla, la riche clarté du soleil couchant s'était éteinte, les ombres et les ténèbres de la nuit se précipitaient à l'horizon et on voyait déjà briller au-dessus de sa tête quelques étoiles éclatantes. Tous les oiseaux étaient à leur perchoir et les pâquerettes sur le gazon avaient fermé leurs petits capuchons pour protéger leur sommeil. Le chèvrefeuille, enlacé autour du porche, exhalait ses parfums plus odorants que jamais, comme si à cette heure silencieuse, il devenait moins timide et qu'il aimât à prodiguer à la nuit ses douces senteurs. Le lierre remuait à peine son feuillage d'un vert profond, comme tout cela était tranquille, comme tout cela était beau. Mais est-ce que je n'entends pas encore un autre bruit que le frôlement des feuilles dans les arbres et le gai frémissement des sauterelles ? Écoutez bien, c'est quelque chose de bien faible et de bien éloigné. Cela ressemble assez à ce bruit de mer qu'on entend dans un coquillage, mais le voici qui augmente, et maintenant il décroît, il recommence, il redouble, il s'affaiblit encore, il éclate avec violence. En effet, c'était bien un bruit qu'on entendait sur la route et qui variait avec les détours du chemin, mais à présent, il n'y avait plus à s'y méprendre, c'était bien les voix, c'était bien les pas d'un grand nombre de personnes.
Peut-être pourtant que, même alors, John Willett aurait été à 100 lieues de penser à l'émeute sans les clameurs de sa cuisinière et de sa fille de service qui se mirent à grimper l'escalier en poussant des cris et à s'enfermer au verrou dans un vieux grenier d'où elles firent entendre encore des hurlements plaintifs apparemment pour mieux assurer le secret de leur retraite. Ces deux demoiselles ont déposé plus tard que M. Willett, dans sa terreur, ne prononça qu'un mot 6 fois de suite et d'une voix de stentor qui le fit retentir jusqu'au haut de l'escalier où elles étaient, mais comme ce mot ne se composait que d'un monosyllabe parfaitement inoffensif quand on l'emploie pour le quadrupède même qu'il désigne, mais très répréhensible quand on l'applique à des femmes d'un caractère irréprochable. Il y a des personnes qui ont été portées à croire que ces demoiselles étaient sous l'empire de quelque hallucination causée par l'excès de leur frayeur et qu'elles avaient été dupes d'une erreur d'acoustique. Quoi qu'il en soit, John Willett, chez lequel, à défaut de courage, il y avait un entêtement imbécile qui pouvait en avoir l'air, s'établit sous le porche où il les attendit de pied ferme. Une fois, je crois, il lui passa par la tête une idée vague que cette porte, derrière lui, avait une serrure et des verrous. Il eut par la même occasion une autre idée confuse dans le cerveau, qu'il avait sous la main des volets pour fermer les fenêtres du rez-de-chaussée. Mais il n'en resta pas moins là, comme une souche, à regarder de loin dans la direction d'où le bruit s'avançait rapidement, sans seulement se donner la peine de retirer les mains de ses goussets. Il n'eut pas longtemps à attendre, une masse noirâtre qui se mouvait dans un nuage de poussière se fit bientôt apercevoir. L'émeute doublait le pas, criant à tue-tête comme des sauvages, ils se précipitèrent pêle-mêle et en quelques secondes, ils s'étaient déjà passés, l'aubergiste, comme une balle de main en main, jusqu'au cœur de la troupe. « Ohé !» cria une voix qu'il reconnut en même temps que l'homme qui parlait fendait la presse pour se faire un passage jusqu'à lui. « Où est-il? Donnez-le-moi, ne lui faites pas de mal !»« Eh bien, mon vieux John, comment ça va ?» Monsieur Willett le regarda, vit bien que c'était Hugues, mais sans rien dire et peut-être sans en penser davantage. « Voilà des camarades qui ont soif. Il faut leur donner à boire !» cria Hugues en le poussant dans la maison. « Allons, père Jean, hardez à la besogne. Donnez-nous de ce bon petit, de cet excellent petit extra fin que vous gardez pour votre boîte ordinaire. » John articula faiblement ces mots. « Qui est-ce qui payera ?» « Dites donc, les autres, entendez-vous? Ils demandent qui est-ce qui paiera !» cria Hugues avec des éclats de rire qui rebondirent dans la foule. Puis, se tournant vers John, il ajouta « Qui paiera? Mais personne !» John arrêta ses yeux sur cette masse de figures, les unes ricanantes, les autres menaçantes, les unes éclairées par des torches, les autres indistinctes, quelques-unes couvertes par l'ombre et les ténèbres, ou le regardant fixement, ou faisant l'inspection de sa maison, ou se regardant les unes les autres, et sans savoir comment, car il ne se rappelait seulement pas avoir bougé, il se trouva dans son comptoir, assis dans son fauteuil, assistant à la destruction de ses biens comme à quelques représentations théâtrales d'une nature surprenante et stupéfiante, mais qui ne le regardait pas du tout à ce qu'il pouvait croire. Vraiment, oui. Voilà bien le comptoir, ce comptoir vénéré, où les plus hardis n'auraient pas osé entrer sans une invitation spéciale du maître, le sanctuaire, le mystère, le saint des saints. Eh bien, le voilà, ce comptoir, qui regorge d'hommes, de gourdins, de bâtons, de torches, de pistolets, qui retentit d'un bruit assourdissant de jurons, de cris, de huées, de menaces. Ce n'est plus un comptoir, c'est une ménagerie, une maison de fous, un temple infernal et diabolique. Les gens vont et viennent, entrent et sortent par la porte ou par la fenêtre, cassent les carreaux, tournent les cannelles, boivent les liqueurs dans de pleins bols de porcelaine. Ils se mettent à califourchon sur les tonneaux, ils fument les pipes personnelles et consacrées de John et de ses pratiques, ils élaguent le bosquet respecté d'oranges et de citrons, hachent et taillent en plein fromage dans le fameux Chester, brisent des tiroirs inviolables et les ouvrent tout grands, mettent dans leurs poches des choses qui ne leur appartiennent pas, se partagent son propre argent sous ses propres yeux, gaspillent, brisent, cassent, foulent aux pieds comme des insensés tout ce qu'ils trouvent. Il n'y a rien d'épargné, rien de sacré. On voit des hommes partout, en haut, en bas, au premier, à la cuisine, dans les chambres à coucher, dans la cour, dans les écuries. Les portes sont ouvertes, cela leur est égal. Ils montent par la fenêtre. Qu'est-ce qui les empêche de descendre par l'escalier? Non, ils aiment mieux sauter par la croisée et se jettent par-dessus les rampes pour être plutôt dans le corridor. À chaque instant, ce ne sont que figures nouvelles, une vraie fantasmagorie de gars qui hurlent, de gens qui chantent, de gens qui se battent, de gens qui cassent les verres et les assiettes, de gens qui abreuvent le plancher de la liqueur qu'ils ne peuvent plus boire, de gens qui sonnent la cloche jusqu'à la démancher, de gens qui la frappent à coups de marteau jusqu'à ce qu'ils l'aient mise en morceaux. Toujours, toujours, des gens qui grouillent comme des fourmilières, toujours du bruit, de la fumée de tabac, des torches, de l'obscurité, des folies, des colères, des rires, des gémissements, le pillage, l'effroi, la ruine. Presque tout le temps que John considéra cette scène épouvantable, Hugues se tint auprès de lui, et quoiqu'il fût bien le plus tapageur, le plus farouche, le plus malfaisant coquin de tous ceux qui étaient là, il empêcha nombre de fois qu'on ne brisât les os de son maître. Et même quand M. Tapertit, animé par les liqueurs, passa par là et pour bien assurer sa prérogative donna poliment à John Willet des coups de pied dans les os des jambes, Hugues conseilla à son patron de les rendre, et si le vieux John avait eu la présence d'esprit de comprendre ce qu'il lui disait à demi-mot et d'en profiter, point de doute qu'avec la protection de Hugues, il ne s'en fût tiré sans danger. Enfin, la bande commença à se reformer hors de la maison et à rappeler ceux qui restaient à lambiner au-dedans pour faire corps avec eux. Pendant que les murmures croissaient et se formulaient hautement, Hugues et quelques-uns de ceux qui étaient encore arrêtés au comptoir et qui étaient évidemment les meneurs principaux se consultèrent à part pour savoir ce qu'il fallait faire de John afin de s'assurer de lui jusqu'à ce qu'ils eussent fini leur travail de chiguel. Les uns proposaient de mettre le feu à la maison et de le laisser s'y consumer, les autres de lui faire prêter serment qu'il resterait là sur son fauteuil sans bouger pendant 24 heures, d'autres enfin de lui mettre un bâillon et de l'emmener avec eux sous bonne garde. Après avoir examiné et rejeté successivement toutes ces propositions, on finit par décider qu'il fallait le garrotter dans son fauteuil et on appela Dennis pour le charger de l'exécution.
« Faites bien attention, père Jean.
Nous allons vous lier les pieds et les mains, mais sans vous faire d'autre mal,
vous entendez bien ?»
John Willet en regarda un autre, comme s'il ne savait pas qui est-ce qui parlait, et marmotta entre ses dents deux ou trois mots sur l'habitude qu'il avait de prendre quelque chose tous les dimanches à 2 heures, ajoutant qu'il n'avait rien pris depuis.
« Est-ce que vous ne m'entendez pas ? Je vous dis qu'on ne vous fera pas de mal !»
beugla Hugues en lui donnant un grand coup dans le dos pour mieux lui faire entrer son avis dans la tête. Il a eu si peur qu'il ne sait plus où il en est, je crois. « Donnez-lui donc une goutte. Et les autres, passez-nous donc quelque chose. » En effet, on lui passa un verre de liqueur, dont Hugues versa le contenu dans le gosier du vieux John. M. Willet fit légèrement claquer ses lèvres, fourra la main dans sa poche pour y chercher de l'argent, en demandant combien c'était. Il ajouta, en promenant à la ronde des yeux hébétés, qu'il croyait qu'il y avait aussi à payer quelques verres cassés.
« Il a perdu la tête pour le moment, c'est sûr !»
dit Hugues après l'avoir secoué rudement sans produire d'autre effet sur tout son système qu'un cliquetis de clé dans sa poche.
« Où est-il donc ce Dennis ?»
On appela encore Dennis, qui vint enfin avec un bon bout de corde autour des reins comme un capucin. Il accourait en toute hâte, escorté d'une demi-douzaine de gardes du corps.
« Allons, lestement !» cria Hugues en frappant la terre du pied. « Dépêchons-nous !»
Dennis ne fit que cligner de l'œil et déroula sa corde, puis, levant les yeux vers le plafond, regarda tout autour, sur les murs et sur la corniche, d'un œil curieux. Après cette inspection, il branla la tête.
« Eh, allez donc, ne bougez pas !» cria Hugues, frappant encore du pied avec plus d'impatience. « Allez-vous nous faire attendre ici, qu'on ait sonné l'alarme à 10 000 à la ronde, et qu'on vienne nous déranger dans notre besogne ?»«
C'est bon à dire, camarade, » répondit Dennis en faisant un pas vers lui, « mais à moins... »
Et ici, il lui parla tout bas, « à moins de l'accrocher à la porte, je ne vois rien de propice pour ça dans toute la chambre. »«
De propice pour quoi ?»« De propice pour quoi ?» reprit Dennis. « Vous savez bien ce qu'on veut faire du bonhomme. »«
Quoi, n'allez-vous pas le pendre ?»
cria Hugues.
« Eh bien, il ne faut donc pas, »
répliqua le bourreau étonné.
« Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?»
Hugues ne répondit pas, mais arrachant la corde des mains de son camarade, il se mit en devoir de lier le père John lui-même. Seulement, il s'y prit d'une manière si gauche et si maladroite que M. Dennis le supplia, presque la larme à l'œil, de lui laisser faire son métier. Hugues y consentit, et le bourreau eut bientôt fait.
« Là, » dit-il, regardant tristement John Willet, qui ne montrait pas plus d'émotion dans ses liens que tout à l'heure quand il était libre, « voilà ce qui s'appelle de la bonne ouvrage, et proprement faite. On le dirait, empaillée. Mais dites donc, camarade, je voudrais vous dire un mot. À présent que le voilà troussé comme une volaille et tout préparé pour la chose, ne vaudrait-il pas mieux, pour tout le monde, le dépêcher sans plus tarder ? Ah, que ça ferait bien dans le journal ! Le public en aurait bien plus de considération pour nous. Hugues, comprenant l'intention de son camarade, mieux encore par ses gestes que par sa manière de s'exprimer un peu technique pour quelqu'un qui n'en avait pas l'habitude, rejeta derechef cette proposition et prononça le commandement en avant, qui fut répété au dehors par 100 voix en chœur. « À la garenne !» cria Dennis en courant, suivi de tous ceux qui étaient encore dans la maison. « À la maison du témoin, camarade !» Un cri de rage répondit à cet appel, et la foule tout entière courut, animée par l'amour de la destruction et du pillage. Hugues resta quelques moments encore en arrière pour prendre quelques nouveaux stimulants, et pour ouvrir toutes les cannelles qui pouvaient avoir été épargnées, puis jetant un dernier coup d'œil sur cette chambre pillée et dévastée, où les émeutiers avaient jeté le mets lui-même par la fenêtre, car il l'avait scié en morceaux, il alluma sa torche, donna une tape sur le dos de John Willett, muet et immobile, il balança son luminaire sur sa tête, poussa un cri furieux, et se dépêcha de courir après ses compagnons.
Chapitre 55. John Willett, laissé seul dans son comptoir démantibulé, continua de rester assis, tout abasourdi. Ses yeux, tout grands ouverts, montraient bien qu'il était éveillé, mais toutes ses facultés de raison et de réflexion étaient abîmées dans un sommeil absolu. Il promenait les yeux autour de cette chambre qui avait été depuis de longues années et qui était encore, pas plus tard qu'il y a une heure, l'orgueil de son cœur, mais sans qu'un muscle de sa figure en fût seulement ému. La nuit, au dehors, semblait noire et froide, à travers les trouées qui avaient été naguère des fenêtres. Les liquides précieux, à présent à sec ou peu s'en faut, tombaient goutte à goutte sur le plancher. L'arbre de mai, brisé, avait l'air de regarder par la croisée rompue, comme le beaupré d'un vaisseau naufragé. Et rien n'empêchait de comparer le parquet au fond de la mer, tant il était comme elle, semé de débris précieux. Les courants d'air, qui n'avaient plus d'obstacle, faisaient claquer et crier sur leurs gonds les vieilles portes. Les chandelles vacillaient et coulaient, garnies de je ne sais combien de champignons. Les beaux et brillants rideaux d'écarlate flottaient et clapotaient au vent. Les bons petits barils hollandais de curaçao ou d'anisette, tournés sans dessus-dessous et vides, étaient jetés honteusement dans un coin. Ce n'était plus que l'ombre de ces jolis cartons qui avaient perdu toute leur jovialité, sans espérance de la retrouver jamais. John voyait cette désolation, ou plutôt, il ne la voyait pas. Il ne demandait pas mieux que de rester là, assis, les yeux tout grands ouverts, n'éprouvant pas plus d'indignation ou de malaise, revêtu de ses liens, que si c'eussent été des décorations honorifiques. Personnellement, il ne voyait aucun changement. Le temps allait son petit bonhomme de chemin, comme d'habitude, et le monde était toujours tranquille, comme à l'ordinaire. N'était qu'on entendait les barils se vider goutte à goutte, les débris des fenêtres cassées crier sous le souffle du vent et le craquement monotone des portes ouvertes, tout était profondément calme. Ces petits bruits, semblables au tic-tac de la montre du temps pendant la nuit, ne faisaient que rendre le silence plus saisissant et plus effrayant. Et le bruit ou le calme, pour John, c'était tout un. Un train de grosse artillerie aurait pu venir exécuter des sarabandes sous sa fenêtre, qu'il n'en aurait été que ça. Il était désormais à l'abri de toute surprise. Un revenant même ne lui aurait rien fait. Justement, il entendit un pas précipité et cependant discret, qui s'approchait de la maison. Ce pas s'arrêta, avança encore, sembla faire le tour des bâtiments et finit par venir sous la fenêtre, par laquelle une tête plongea dans la salle. Les chandelles agitées mettaient ce visage singulièrement en relief sur le fond noir et sombre de la nuit au dehors. Il était pâle, flétri, usé.
Les yeux, à raison de sa maigreur, paraissaient naturellement grands et brillants. Les cheveux étaient grisonnants. Il lança un regard pénétrant dans la chambre, en même temps qu'on entendit une voix creuse demander « Est-ce que vous êtes seul dans cette maison ?» John ne fit aucun signe, quoique cette question fût répétée deux fois et qu'il l'eût bien entendue. Après un moment de silence, l'homme entra par la fenêtre. John ne parut pas plus surpris de cela que du reste. Il en avait tant vu monter ou descendre par les croisées en une heure de temps qu'il ne se rappelait plus seulement qu'il y eut une porte et qu'il croyait avoir toujours vécu au milieu de ses exercices gymnastiques depuis son enfance. L'homme portait un grand habit noir passé et un chapeau rabattu. Il marcha droit à John et le regarda en face. John lui rendit, incontinent, la monnaie de sa pièce. « Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes assis là, comme ça ?» dit l'homme. John réfléchit, mais sans pouvoir trouver rien à dire. « De quel côté sont-ils partis ?» À cette question, expliquez-moi comment il se fit, car je n'y comprends rien, que la forme particulière des bottes de l'étranger trotta dans la tête de M. Willett, qui finit par secouer ses distractions importunes et retomba dans son premier état. « Ah ça, vous feriez aussi bien de me répondre, » dit l'autre. « Ce serait le moyen de conserver au moins votre peau, puisqu'il ne vous reste plus que ça. De quel côté sont-ils partis ?»« Par là, » dit John, retrouvant tout de suite la voix et faisant de bonne foi un signe de tête tout juste dans la direction contraire à l'exacte vérité. Il faut dire que ses pieds et ses mains étaient liés si étroitement qu'il ne lui restait plus que le visage pour montrer à l'étranger son chemin. « Vous mentez !» dit celui-ci avec un geste de colère et de menace. « Je suis venu par là et je n'ai rien vu. Vous voulez me tromper ?» Cependant, il était si visible que l'apathie imperturbable de John n'était pas un jeu, qu'elle était au contraire le résultat de la scène qui venait de se passer sous son toit, que l'étranger retint sa main au moment de le frapper et se retourna. John le regarda faire sans seulement sourciller. L'autre alors se saisit d'un verre, le tint sous un des petits barils pour recueillir quelques gouttes qu'il avala avec une grande avidité. Puis, trouvant que cela n'allait pas assez vite, il jeta le verre par terre avec impatience, prit le baril même à deux mains et s'en versa directement le contenu dans le gosier. Il y avait çà et là quelques croûtes de pain oubliées. Il tomba dessus aussitôt, les mangeant avec voracité et ne s'arrêtant que pour écouter de temps en temps quelques bruits imaginaires au dehors. Après s'être restauré en courant, il souleva un autre baril pour l'appliquer à ses lèvres, rabattit son chapeau sur son front comme s'il se disposait à quitter la maison et revint à John. « Où sont vos domestiques ?» M. Willett eut un souvenir confus d'avoir entendu les émeutiers leur crier de jeter par la fenêtre la clé de la chambre où elle s'était retirée. Il répliqua donc par ces mots « Elles sont sous clé ». « Elles feront bien de se tenir tranquilles, et vous aussi, » repartit l'autre. « À présent, dites-moi de quel côté ils sont partis. » Cette fois-ci, M. Willett ne se trompa pas. L'étranger se précipitait du côté de la porte pour sortir, quand, tout à coup, le vent leur apporta le tintement éclatant et rapide d'une cloche d'alarme, puis on vit dans l'air une vive et subite clarté qui illumina non seulement toute la chambre, mais toute la campagne. Ce ne fut pas le passage soudain des ténèbres à cette clarté terrible, ce ne fut pas le son des cris lointains et des hurrahs victorieux, ce ne fut pas cette invasion effrayante du tumulte dans la paix et la sérénité de la nuit qui fit reculer d'effroi l'étranger, comme s'il venait d'être frappé d'un coup de tonnerre. Non, ce fut la cloche. La forme la plus hideuse, du plus épouvantable revenant que l'imagination humaine ait jamais pu se figurer, aurait surgi devant lui, qu'il n'aurait pas fui devant elle d'un pas chancelant, avec autant d'horreur qu'il en montra au premier son de cette voix de fer retentissante. Les yeux lui sortaient de la tête, il tremblait de tous ses membres, sa figure était horrible à voir, avec sa main droite levée en l'air, la gauche pressant en bas quelque objet imaginaire qu'il frappait à coups redoublés, comme le meurtrier qui plonge un poignard au cœur de sa victime. Puis il se tira les cheveux, il se boucha les oreilles, il courut à droite, à gauche comme un fou. Puis enfin, il poussa un cri effroyable et se rua dehors. Et toujours, toujours la cloche tintait à sa poursuite, plus fort, plus fort, plus vite, plus vite. L'embrasement devenait plus brillant, le tumulte des voix plus profond, l'air était ébranlé par la chute de corps pesants qui craquaient en tombant, des ruisseaux d'étincelles enflammées jaillissaient jusqu'au ciel. mais il y avait quelque chose de plus sonore que la chute des murs ruinés, de plus rapide pour monter jusqu'au ciel que les étincelles de l'incendie, de plus furieux, de plus sauvage mille fois que le bruit confus des voix, quelque chose qui proclamait d'horribles secrets longtemps ensevelis dans le silence, quelque chose qui parlait la langue des morts, la cloche, la cloche. Une meute de spectres n'aurait jamais devancé à la course cette poursuite rapide, cette chasse enragée. Une légion de revenants à ses trousses ne lui aurait pas inspiré tant de crainte. Cela aurait eu au moins un commencement et une fin, tandis qu'ici c'était répandu par tout l'espace. Il n'y avait qu'une voix acharnée à sa poursuite, mais elle était partout. Elle éclatait sur la terre, elle éclatait dans l'air. Elle courbait en passant la pointe des herbes, elle hurlait à travers les arbres frémissants. Les échos la doublaient et la répétaient, les hiboux la saisissaient au passage dans le vent pour y répondre. Le rossignol, de désespoir, en perdait la voix et allait cacher son effroi au plus épais des bois. Elle avait l'air de presser et de stimuler la colère de la flamme en délire. Tout était abreuvé d'une teinte écarlate, le feu brillait partout, la nature semblait noyée dans le sang. Et toujours le cri impitoyable de cette voix effrayante, la cloche. La cloche. Elle cesse, mais pour les autres, non pas pour lui qui en emporte le glas dans son cœur. Jamais tocsin sorti de la main des hommes n'a eu une voix pour vous vibrer ainsi dans l'âme et vous répéter à chaque son qu'elle ne cessera pas d'appeler le ciel à son aide. Car cette cloche-là, c'est bien se faire comprendre. Il n'y a pas moyen de ne pas savoir ce qu'elle dit. Assassin, assassin à chaque note. Cruel, barbare, sauvage, assassin. Assassin d'un brave homme qui, dans sa confiance, avait mis sa main dans la main de son bourreau. Rien que de l'entendre, les fantômes sortaient de leur tombe. Tenez, en voilà un dont la figure animée d'un sourire amical se change tout à coup en une expression d'incrédulité et d'horreur. Puis, le moment d'après, vous y voyez la torture de la douleur. Il jette au ciel un regard suppliant et tombe roide sur le sol. Les yeux retournés dans leur orbite, comme la biche aux abois qu'il avait quelquefois vu mourir quand il était petit enfant, qu'il tressaillait et frissonnait. Quel triste souvenir en ce moment, se cramponnant au tablier de sa mère, curieux et effrayé à cette vue. L'autre, l'étranger, tombe aussi, la face sur la terre, qu'il gratte de ses mains comme pour s'y creuser un refuge, pour y cacher, au moins pour y couvrir son visage et ses oreilles. Mais non, 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 une triple enceinte de murs, un triple toit d'airain ne le défendrait pas contre cette voix. L'univers, le vaste univers, la pointe de refuge à lui donner contre elle. Pendant qu'il se précipitait de tous côtés sans savoir par où aller, pendant qu'il restait rampant sur la terre sans pouvoir s'y cacher, la besogne marchait lestement là-bas. En quittant l'arbre de mai, les émeutiers s'étaient formés en un corps compact et s'étaient avancés d'un pas rapide vers la garenne. Devancés néanmoins par le bruit de leur approche, ils trouvèrent les portes du jardin bien fermées, les fenêtres barricadées, la maison ensevelie dans une obscurité profonde. Après avoir inutilement tiré les sonnettes et frappé à la grille, ils se retirèrent à quelques pas de là pour se concerter et prendre conseil sur ce qu'il y avait à faire. La conférence ne fut pas longue, ils ne soupiraient tous qu'après un même but, sous la double influence d'une ivresse furieuse et de leur premier succès qui ne les enivrait pas moins. L'ordre était donné de bloquer le château, les uns grimpèrent sur la porte ou descendirent dans le fossé pour en escalader le revers, d'autres franchirent le mur de clôture, d'autres renversèrent les barreaux de défense dont ils se firent à chaque brèche nouvelle des armes meurtrières. Quand le château fut complètement cerné, on envoya un petit nombre d'hommes enfoncer dans le jardin un atelier d'outils et en attendant leur retour, les autres se contentèrent de frapper avec violence aux portes, en appelant les gens qui pouvaient être dans la maison et les sommant de venir leur ouvrir s'ils voulaient avoir la vie sauve. Voyant qu'ils ne recevaient aucune réponse à ces sommations et que le détachement envoyé à la découverte des outils revenait avec un supplément utile de pioches, de bêches, de hoyaux, ils leur ouvrirent un passage ainsi qu'à ceux qui étaient déjà armés ou pourvus d'avance de haches, de barres de fer, de pinces. Quand ils eurent percé à travers la foule, ils formèrent le premier rang des assaillants, tout prêts à faire le siège en règle des portes et des fenêtres. Il n'y avait pour le moment parmi eux pas plus d'une douzaine de torches allumées, mais après tous ces préparatifs, on distribua des flambeaux qui passèrent de main en main avec tant de rapidité qu'en moins d'une minute, les deux tiers au moins de toute cette masse tumultueuse portaient des brandons incendiaires. Ils leur firent faire la roue au-dessus de leur tête en poussant de grands cris et se mirent à travailler les fenêtres et les portes. Au beau milieu du tapage, pendant qu'on entendait le bruit sourd des coups de pioche, le fracas des vitres cassées, les cris et les jurons de la populace, Hugues et ses amis profitèrent du désordre et du tumulte pour se rendre ensemble à la porte de la tourelle, où M. Herdel l'avait reçu la dernière fois avec John Willett. Et c'est contre cette porte qu'ils concentrèrent tous leurs efforts. Une bonne porte, ma foi, en vieux chêne bien fort, soutenue derrière par de fameuses gâches et une traverse solide, mais malgré tout, elle ne résista pas longtemps. On entendit craquer et tomber sur l'escalier de derrière, où elle leur servit de plateforme pour leur faciliter l'accès de la chambre haute. Presque au même moment, la maison était forcée sur une douzaine de points et la foule s'éboulait par chaque brèche, comme l'eau déborde à travers une digue rompue. Il y avait deux ou trois domestiques postés dans le vestibule avec des fusils, dont ils tirèrent un coup ou deux sur les assaillants quand ils eurent forcé le passage, mais il n'y eut personne d'atteint, et voyant leurs ennemis se précipiter comme une légion de diables, ils ne songèrent plus qu'à leur propre sûreté et opérèrent leur retraite en imitant les cris des assiégeants dans l'espérance de se confondre avec eux au milieu du vacarme. Et en effet, ce stratagème leur réussit. Il n'y eut qu'un pauvre vieillard dont on n'entendit plus jamais reparler. On lui avait fait, dit-on, sauter la cervelle d'un coup de barre de fer. Un de ses camarades le vit tomber, et son cadavre fut ensuite la proie des flammes. Une fois maître du château, les assiégeants se répandirent à l'intérieur, depuis la cave jusqu'au grenier, et commencèrent leur œuvre de destruction violente. Pendant que quelques groupes allumaient des feux de joie sous les fenêtres, d'autres cassaient les meubles et en jetaient les fragments par la croisée pour alimenter la flamme. Là où l'ouverture dans le mur, car ce n'étaient plus des fenêtres, était assez grande, ils lançaient dans le feu les tables, les commodes, les lits, les miroirs, les tableaux, et chaque fois qu'ils empilaient quelques pièces nouvelles sur le bûcher, c'était de nouveaux cris, de nouveaux hurlements, un tintamarre infernal qui ajoutait encore à l'horreur de l'incendie. Ceux qui portaient des haches et qui avaient passé leur colère sur le mobilier s'en prenaient après aux portes, aux impostes qu'ils mettaient en pièces. Ils brisaient les parquets, coupaient les poutres et les solives, sans s'inquiéter s'ils n'allaient pas ensevelir sous des monceaux de ruines les traînards qui n'avaient pas quitté assez tôt l'étage supérieur. Il y en avait qui fouillaient dans les tiroirs, les caisses, les boîtes, les pupitres, les armoires, pour y chercher des bijoux, de l'argenterie, des pièces de monnaie. D'autres, plus avides de destruction que de gain, les jetaient dans la cour sans seulement y regarder, en invitant ceux d'en bas à les mettre en tas dans le brasier. D'autres, qui étaient descendus à la cave pour y défoncer les tonneaux, couraient ça et là comme des enragés, mettant le feu à tout ce qu'ils voyaient, souvent même aux vêtements de leurs camarades, enfin brûlant si bien les bâtiments par tous les bouts qu'on en voyait plusieurs qui n'avaient pas eu le temps de se sauver, suspendus avec leurs mains défaillantes et le visage noirci par la fumée, aux allèges des croisées où ils s'étaient traînés en attendant qu'ils fussent attirés et dévorés dans la fournaise. Plus le feu sévissait et pétillait, plus les gens devenaient farouches et cruels, comme des diables qui se sentent dans leur élément au milieu du feu. Ils avaient déjà dépouillé leur nature terrestre pour prendre un avant-goût des plaisirs de l'enfer. Le bûcher en combustion, qui montrait les chambres et les couloirs rouges comme le feu à travers les trous pratiqués dans les murs écroulés, les flammes égarées qui léchaient de leurs langues fourchues les murs de briques et de pierres au dehors pour trouver un passage et porter leur tribut à la masse ardente qui brûlait en dedans, le reflet de l'incendie sur le visage des brigands occupés à la tiser, le mugissement de la braise furieuse, si haute et si brillante qu'elle semblait dans sa rapidité avoir dévoré jusqu'à la fumée même, les flamèches vivantes que le vent détachait du brasier pour les emporter sur ses ailes comme une neige de feu, le bruit sourd des poutres brisées qui tombaient comme des plumes sur le monceau de cendres et se réduisaient presque au même instant en un foyer d'étincelles et de poussières enflammées, la teinte blafarde qui couvrait le ciel faisait mieux ressortir tout autour par le contraste les ténèbres profondes, la vue de tous les recoins dans leur usage domestique faisait naguère un lieu sacré, livré maintenant sans pudeur au regard d'une populace effrontée, la destruction par des mains rudes et grossières des mille petits objets de la prédilection des maîtres qui les associaient dans leur cœur avec de tendres et précieux souvenirs, et cela, non pas au milieu de visages sympathiques et de consolations murmurées par l'amitié, mais au bruit des acclamations les plus brutales et de cris étourdissants qui faisaient sauver à la hâte jusqu'au rat habitué par une longue possession à ce domicile antique et devenu, pour ainsi dire, les commensaux de la maison. Toutes les circonstances se combinaient pour présenter aux yeux une scène que les spectateurs qui n'y prenaient point part ne devaient jamais oublier, dussent-ils vivre 100 ans. Quels étaient ces spectateurs ? La cloche d'alarme remuée par des mains puissantes avait longtemps retenti, mais pas une âme qu'on pût voir. Quelques rebelles prétendaient bien que, lorsqu'elle avait cessé d'appeler à l'aide, on avait entendu des cris de femmes éplorées et qu'on avait vu flotter leurs vêtements dans l'air pendant qu'elles étaient emportées malgré leur résistance par une troupe de ravisseurs. Mais dans un pareil désordre, personne ne pouvait dire si c'était vrai ou si c'était faux. Cependant, où donc était Hugues ? Personne ne l'avait plus vu depuis qu'on avait enfoncé les portes. Toute la bande criait après lui. Où est donc Hugues ?
Présent, répondit-il d'une voix enrouée en sortant de l'obscurité, tout haletant, tout noirci par la fumée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Voilà le feu qui va s'éteindre de lui-même. Et s'il reste encore quelques pans de muraille, ce n'est plus qu'un amas de ruines. Dispersons-nous, mes gars. Entrez par différents chemins et nous nous retrouverons comme d'habitude.
Là-dessus, il disparut de nouveau. C'était bien étrange, lui qui toujours arrivait le premier et ne s'en allait que le dernier, et les laissa retourner chacun chez eux, comme il voulait. Ce n'était pas une tâche facile que d'organiser la retraite d'une pareille multitude. Quand on aurait ouvert toutes grandes les portes de Bedlam, il n'en serait pas sorti autant de fous qu'en avait fait sortir cette nuit de délire. On voyait des hommes danser et trépigner sur les parterres de fleurs comme s'ils croyaient écraser des victimes humaines sous leurs pieds. Ils arrachaient leurs tiges avec fureur comme des sauvages qui tordent le cou de leurs ennemis. On en voyait d'autres jeter en l'air leurs torches enflammées et les recevoir sans bouger sur leurs têtes et sur leurs visages, tout enflés et tout couturés de brûlures hideuses. On en voyait qui se précipitaient jusqu'au brasier et en écartaient la vapeur avec le mouvement de leurs mains comme s'ils nageaient en pleine eau. D'autres même qu'on avait beaucoup de peine à empêcher de s'y plonger pour satisfaire leur soif de feu. Sur le crâne d'un garçon de 20 ans à peine, étendu ivre mort sur le gazon avec le goulot d'une bouteille dans la bouche, coulait du toit une pluie de plomb liquide brûlé à blanc qui faisait fondre sa tête comme une cire. Quand on réunit tous les gens épars, on retira des caves pour les emporter à bras des misérables vivants encore, mais marqués comme d'un fer chaud sur tout le corps. Et, le long de la route, leurs porteurs cherchaient à les ragaillardir par des plaisanteries de corps de garde, en attendant qu'ils les déposassent morts à la porte de quelque hôpital. Mais tous ces tableaux effroyables n'inspiraient à personne dans cette troupe hurlante ni pitié ni dégoût. Il n'y en avait pas un dont la rage aveugle, féroce, animale, fût seulement assouvie. Le rassemblement se dispersa à la fin, lentement, et par petits pelotons, avec des hurrahs enroués, et au bruit de leurs cris ordinaires. Quelques traînards, les yeux éraillés et injectés de sang, suivaient l'avant-garde d'un pas aviné. Les appels lointains par lesquels ils se répondaient, le sifflement convenu pour rallier ceux qui manquaient, devinrent de plus en plus rares et faibles, tant qu'enfin ces bruits mêmes expirèrent, faisant place au silence des nuits. Quel silence! L'éclat éblouissant des flammes n'était plus à présent qu'une lueur d'accès, un éclair intermittent. Les charmantes étoiles du ciel, jusqu'alors invisibles, éclairaient à leur tour le monceau de cendres, bientôt obscur. Une fumée retardataire était encore suspendue le long des ruines, comme pour les cacher aux yeux. Le vent semblait la respecter. Des murailles nues, des toits ouverts, des chambres où des êtres bien chers, aujourd'hui défunts, avaient bien des fois relevé le matin leur tête sur leur chevet pour renaître à une vie nouvelle avec une nouvelle énergie, ou tant d'autres également bien-aimés avaient passé des jours de joie ou de tristesse, où se trouvaient mêlés ensemble tant de souvenirs et de regrets, de soucis et d'espérances. Tout cela parti. Il ne reste plus qu'un vide triste et navrant, un monceau à demi étouffé de poussière et de cendres. Le silence et la solitude du néant.
Chapitre 56. Les bonnes gens de l'arbre de mai, qui ne se doutaient guère du changement qui bientôt allait se faire dans leur rendez-vous favori, entrèrent dans la forêt pour se rendre à Londres. Ils ne prirent pas la grande route pour éviter la chaleur et la poussière et se tinrent dans les sentiers à travers champs. À mesure qu'ils approchaient de leur destination, ils se mirent à faire des questions aux gens qui passaient sur l'émeute, sur la vérité ou la fausseté des récits qu'on leur en avait faits. Les réponses qu'ils reçurent laissaient bien loin derrière elles les chétives nouvelles qui avaient pénétré dans la paisible bourgade de Chigwell. Un homme leur dit que cet après-midi même, la troupe chargée de conduire à Newgate quelques émeutiers qu'on venait d'interroger en justice avait été attaquée par la populace et forcée de faire retraite. Un autre que l'on était en train de démolir la maison de deux témoins à charge près de Clare Market, au moment où il était parti de Londres. Un autre que l'on devait mettre ce soir le feu à celle de Sir George Saville dans le quartier de Leicestersfield, et que Sir George passerait un mauvais quart d'heure s'il tombait entre les mains du peuple parce que c'était lui qui avait présenté le bill en faveur des catholiques. Tous s'accordaient à dire que l'émeute était à l'œuvre, plus forte et plus nombreuse que jamais, qu'il ne faisait pas bon dans les rues, que l'épouvante publique croissait à chaque moment et qu'il y avait déjà un grand nombre de familles qui s'étaient sauvées à la campagne. Passa un drôle qui portait les couleurs populaires et qui les insulta pour n'avoir point de cocarde à leur chapeau en leur recommandant d'aller voir le lendemain soir une fameuse poussée qu'on allait donner aux portes de la prison. Un autre leur demanda si c'est qu'ils étaient incombustibles de sortir ainsi sur les chemins sans porter la marque distinctive des honnêtes gens. Enfin, un troisième, qui allait à cheval tout seul, leur ordonna de lui jeter chacun un shilling dans son chapeau pour la quête des émeutiers. Malgré le désagrément de se voir ainsi rançonnés et la crainte que leur causaient tous ces renseignements, ils persistèrent, puisqu'ils avaient tant fait que de venir, dans la résolution de pousser plus loin et d'aller voir de leurs propres yeux l'état réel des choses. Ils doublèrent le pas, comme on fait toujours en pareil cas, lorsqu'on vient de recevoir des nouvelles qui vous intéressent. Et, ruminant chacun de leur côté les rapports qu'ils venaient d'entendre, ils ne se disaient pas grand-chose. Or, la nuit était venue, et quand ils approchèrent de Londres, ils eurent de loin la triste confirmation de ce qu'on leur avait dit, dans la lueur qu'ils purent voir de trois incendies tout près l'un de l'autre, dont la flamme jetait une réverbération lugubre dans le ciel. En arrivant à l'entrée des faubourgs, ils aperçurent, à la porte de presque toutes les maisons, ces mots écrits à la craie en gros caractères, « Pas de papisme ». Les boutiques étaient fermées, l'alarme et la crainte se lisaient sur tous les visages. Chacun de nos curieux faisait à part soi ces remarques peu rassurantes, sans les communiquer à ses camarades, lorsqu'ils arrivèrent à une barrière qui se trouvait fermée. Ils passaient par le tourniquet sur la contre-allée, comme un cavalier venant de Londres au grand galop appela d'un ton très ému le garde-barrière. « Vite, vite, ouvrez-moi au nom du ciel !» À cette prière si pressante et si véhémente, l'homme accourut, une lanterne à la main, et se disposait à ouvrir, lorsque, jetant par hasard les yeux derrière lui, il s'écria « Bonté divine, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un feu !» À ces mots, les trois amateurs de Chigwell tournèrent la tête et virent à distance, juste dans la direction d'où ils venaient, jaillir une nappe de feu qui jetait sur les nuages une clarté menaçante, comme si l'incendie était en effet derrière eux, semblable à un soleil couchant de sinistre présage. Si je ne me trompe, dit le cavalier, je sais d'où partent ces flammes. Allons, mon brave homme, ne restez pas là pétrifié, ouvrez-moi la porte. Monsieur, lui cria le portier en mettant la main sur la bride de son cheval au moment où il lui ouvrait un passage, je crois vous reconnaître, monsieur. Croyez-moi, n'allez pas plus loin, je les ai vus passer, je sais de quoi ces gens-là sont capables, ils vous assassineront. « Soit !» dit le cavalier, toujours l'œil fixé sur le feu et non sur son interlocuteur. « Mais, monsieur, monsieur !» cria l'homme en serrant encore davantage la bride. « Si vous voulez aller plus loin, portez donc au moins le ruban bleu. Tenez, monsieur » ajouta-t-il en détachant la cocarde de son chapeau. « Si je la porte, ce n'est pas par goût, c'est par nécessité. C'est que j'ai peur pour moi et pour ma maison. Prenez-la seulement pour cette nuit seulement. » « Faites, monsieur, faites ce qu'il vous dit !» crièrent les trois amis, se pressant autour de son cheval. « Monsieur Herdel, mon digne monsieur, mon brave gentleman, je vous en prie, laissez-vous persuader. »« Qu'est-ce que j'entends là ?» répondit monsieur Herdel, se baissant pour mieux voir. « N'est-ce pas la voix de Daisy ?»« Oui, monsieur, » répliqua le petit homme. « Laissez-vous persuader, monsieur. Ce brave homme dit vrai. Votre vie peut en dépendre. »« Dites-moi, » reprit Herdel brusquement, « auriez-vous peur de venir avec moi ?
Moi, monsieur, non.
Eh bien, mettez cette cocarde à votre chapeau. Si nous rencontrons ces gueux-là, vous leur jurerez que je vous emmène prisonnier parce que vous la portez. Je leur en dirai autant moi-même, car aussi vrai que j'espère le pardon du bon Dieu dans l'autre monde, je ne veux pas qu'ils me fassent grâce, pas plus que je ne leur ferai quartier si nous en venons aux mains ce soir. Allons, sautez en croupe, vite, tenez-moi bien la taille et n'ayez pas peur. » En un instant, les voilà partis au grand galop, dans un nuage de poussière épaisse et toujours courant devant eux comme Robin des Bois. Par bonheur, l'excellent coursier de Herdel connaissait bien la route, car pas une fois, pas une seule fois dans tout le voyage, M. Herdel n'abaissa les yeux sur le sol, ni ne les détourna un moment de la clarté vers laquelle il chevauchait si follement. Une fois, il dit à demi-voix « C'est ma maison », mais il ne desserra pas les dents davantage, et quand ils arrivaient à des endroits où le chemin était plus mauvais et plus sombre, il n'oubliait jamais de poser sa main sur le petit homme pour bien l'affermir en selle, mais il n'en continuait pas moins de garder la tête droite et les yeux fixés sur le feu, alors comme toujours. La route n'était pas sans danger, car ils avaient quitté la grande route pour prendre le plus court, toujours à bride abattue, par des ruelles et des sentiers solitaires, où les roues des charrettes avaient fait des ornières profondes, où le passage étroit était bordé de haies et de fossés, où l'on avait sur la tête une arcade de grands arbres qui épaississaient l'ombre et l'obscurité. Mais c'est égal, en avant, en avant, en avant, sans s'arrêter et sans broncher, jusqu'à la porte de l'arbre de mai, d'où ils purent voir que le feu commençait à s'éteindre, apparemment faute d'aliments. « Descendons un moment, un seul moment, Daisy, » dit M. Herdel, en l'aidant à sauter de cheval et suivant ses pas. « Willett, Willett, où sont ma nièce et mes domestiques, Willett ?» Tout en poussant ses cris de détresse, il se précipita au comptoir. Qu'est-ce qu'il voit ? L'aubergiste lié et garrotté sur sa chaise, la salle démantibulée, dévastée, toute sans dessus-dessous. Évidemment, personne n'avait pu venir chercher là un refuge. M. Herdel était un caractère fort, accoutumé à se contraindre et à réprimer ses plus vives émotions, mais cet augure sinistre des découvertes auxquelles il devait s'attendre, car en voyant l'incendie, il avait bien deviné tout de suite que sa maison devait être rasée, vainquit son courage. Il se couvrit la figure de ses mains pour un moment et détourna la tête. « Johnny, Johnny !» dit Salomon, et le brave homme criait de toute sa force en se tordant les mains. « Mon cher Johnny, oh, quel changement! Je n'aurais jamais cru voir l'arbre de mai en cet état de ma vie vivante. Et le vieux château de la Garenne, donc, Johnny, Monsieur Herdel! Ah, Johnny, quel affreux spectacle !» En même temps, le petit Salomon Daisy, montrant M. Herdel, plantait ses coudes sur le dos de la chaise de M. Willett et pleurait comme un veau sur l'épaule de l'aubergiste. Le vieux John, pendant ce temps-là, le laissait dire. Il restait assis, muet comme un merlan, fixant sur lui un regard qui n'était pas de ce monde et donnant tous les symptômes possibles d'entière et de parfaite insensibilité à tout ce qui se passait autour de lui. Cependant, quand Salomon ne dit plus rien, il suivit avec ses gros yeux ronds la direction des regards du sacristain et commença à montrer quelque idée vague qu'il pouvait bien y avoir là quelqu'un qui était venu le voir. « Vous nous reconnaissez bien, n'est-ce pas, Johnny ?» dit Salomon en se donnant un coup sur la poitrine. « Daisy, vous savez bien, dans l'église de Chigwell, celui qui sonne les cloches, vous rappelez-vous, le petit lutrin des dimanches dans la chapelle, hein, Johnny ?» M. Willett réfléchit quelques minutes, puis il se mit à entonner tout bas par un instinct mécanique à propos au lutrin « Magnificat anima mea ». C'est cela, cria vivement le petit homme. Justement, c'est bien moi qui chante les vêpres. Johnny, vous y êtes, n'est-ce pas? Dites-moi que vous êtes tout à fait remis.
Remis, dit Willett en récriminant, comme si c'était une question à vider entre lui et sa conscience. Remis? Ah!
Ils ne vous ont pas maltraité à coups de bâton, de tisonnier ou de tout autre instrument contondant, n'est-ce pas, Johnny? Demanda Salomon en jetant un coup d'œil plein d'inquiétude sur la tête de Willett. « Ils ne vous ont pas battu, n'est-ce pas ?»
John fronça le sourcil, baissa les yeux comme s'il était absorbé dans quelque calcul d'arithmétique mentale, puis les releva comme s'il cherchait au plafond le total de l'addition rebelle, puis les promena sur Salomon Daisy, depuis la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds, puis les porta lentement tout autour de la salle. Et alors, une grosse larme ronde, plombée et point du tout transparente, lui roula de chaque œil. Lorsqu'en prenant la tête, il répondit
s'ils avaient eu seulement la bonté de m'assassiner, combien ils m'auraient obligé.
Non, non, ne dites pas ça, Johnny, reprit Daisy, la larme à l'œil. C'est bien triste, mais ça ne va pas jusque-là. Non, non.
Voyez-vous ça, monsieur ? Cria John, tournant ses yeux douloureux sur monsieur Herdel, qui avait mis un genou à terre pour travailler lestement à délivrer l'aubergiste de ses liens.
Voyez-vous ça, monsieur ? Il n'y a pas jusqu'au mai lui-même, le vieux mai, tout de bois et tout insensible qu'il est, qui regarde tout étonné à la fenêtre, comme s'il voulait me dire « John Willett, allons-nous en piquer une tête dans la mare la plus voisine, qui sera assez profonde pour nous noyer, car c'en est fait de nous à tout jamais. »
« Finissez, Johnny, finissez !» lui cria son ami, non moins touché de cet effort d'imagination douloureux de la part de M. Willett que du ton sépulcral dont il avait parlé de l'arbre de mai. « Je vous en prie, Johnny, finissez !»«
Votre perte est grande et votre malheur est pénible, » lui dit M. Herdel, jetant un regard d'impatience vers la porte. « Et ce n'est pas le moment de chercher à vous consoler. Ce ne serait pas moi dans tous les cas qui pourrait le faire. Mais avant de nous quitter, dites-moi une chose. » Et tâchez de me le dire nettement, je vous en supplie. Avez-vous vu Emma, ou avez-vous entendu parler d'elle ?
Non, dit M. Willett.
Vous n'avez donc vu que cette canaille ?
Oui.
Elles se seront sauvées, j'espère, avant le commencement de ces scènes affreuses, dit M. Herdel, qui, au milieu de son agitation, de son désir impatient de remonter à cheval et de son peu d'habileté pour débrouiller des cordes emmêlées, n'avait pas seulement défait encore un nœud. Daisy, un couteau.
« Vous n'auriez pas, » dit John, regardant autour de lui, comme pour chercher son mouchoir de poche ou quelque autre bagatelle qu'il aurait perdue, « vous n'auriez pas, l'un ou l'autre, trouvé quelque part, par là, un cercueil. »«
Willett !» cria M. Herdel. Salomon laissa tomber de ses mains le couteau et sentit une sueur froide lui courir tout le long du corps.
« Ciel !» s'écria-t-il.
« C'est que, voyez-vous, » continua John sans les regarder, « un moment avant de vous voir, j'ai reçu la visite d'un mort qui allait là-bas. Et s'il avait apporté là sa bière ou que vous l'eussiez rencontré sur le chemin, j'aurais bien pu vous dire le nom qu'il y avait sur la plaque. Enfin, s'il ne l'a pas apporté, ça ne fait rien. »
Monsieur Herdel, qui venait d'écouter ces paroles avec une attention palpitante, se releva à l'instant, droit sur ses pieds, et sans dire un seul mot, emmena Salomon Daisy à la porte, monta à cheval, le prit en croupe derrière lui et vola, plutôt qu'il ne galopa, vers cet amas de ruines qui était encore un château majestueux quand le soleil couchant l'avait éclairé la veille de ses derniers feux. M. Willett les regarda, les écouta, ramena ses yeux sur lui-même pour bien s'assurer qu'il n'était plus garrotté et, sans donner le moindre signe d'impatience, de surprise ou de désappointement, retomba doucement dans l'état léthargique dont il n'était sorti un moment que d'une manière très imparfaite. M. Herdel attacha son cheval à un tronc d'arbre et, serrant le bras de son compagnon, se glissa doucement le long du sentier dans les lieux où était hier encore son jardin. Il s'arrêta un instant à regarder ses murs fumants et les étoiles qui envoyaient leur lumière à travers les toits et les planchers ouverts jusque sur le tas de cendres et de poussière. Salomon jeta de côté un coup d'œil timide sur sa figure et vit que ses lèvres étaient étroitement serrées l'une contre l'autre, que ses traits respiraient une résolution sombre sans que lui échappât une larme, un regard, un geste qui trahît sa douleur. Il tira son épée, tâta sa poitrine comme s'il portait sur lui d'autres armes cachées, saisit de nouveau Salomon par le poignet et fit d'un pas discret le tour de la maison. Il regardait à chaque porte, à chaque ouverture, revenait sur ses pas quand il entendait seulement remuer une feuille et cherchait à tâtons, les mains étendues devant lui, dans chaque encoignure plus obscure. C'est ainsi qu'ils firent tout le tour des bâtiments. Mais ils revinrent au point de départ sans avoir rencontré aucune créature humaine ou sans trouver le moindre indice qu'il y eût là quelque traînard caché. Après un moment de silence, M. Herdel se mit à crier à deux ou trois reprises, puis enfin il dit tout haut
« Y a-t-il quelqu'un de caché ici qui connaisse ma voix ?»«
Il n'y a plus rien à craindre, il peut se montrer. S'il y a là quelqu'un de ma maison, je le prie de me répondre. » Il les appela tous par leur nom, les uns après les autres. L'écho répéta sa voix lugubre sur bien des tons. Ensuite, tout redevint muet comme auparavant. Il se tenait au pied de la tourelle où était suspendue la cloche d'alarme. Le feu ne l'avait pas épargné,
et depuis les planchers en avaient été sciés, coupés, enfoncés. Elle était ouverte à tous les vents. Cependant, il restait un bout d'escalier au bas duquel était accumulé un grand tas de cendres et de poussière. Des fragments de marches ébréchées et rompues offraient ça et là une place mal sûre et mal commode pour y poser le pied, puis il disparaissait derrière les angles saillants du mur ou dans les ombres profondes que projetaient sur lui d'autres portions des ruines, car pendant ce temps-là, la lune s'était levée à l'horizon et brillait d'un grand éclat. Pendant qu'ils étaient là, debout, à écouter les échos lointains et à espérer en vain d'entendre quelques voix connues, des grains de poussière glissèrent du haut de cette tourelle en bas. Ému par le moindre bruit dans ce lieu sinistre, Salomon leva les yeux sur son compagnon et vit qu'il venait de se retourner vers le même endroit qu'il observait avec une grande attention. Il était tout yeux et tout oreille. M. Herdel couvrit de sa main la bouche du petit homme et se remit en observation. L'œil en feu, il lui recommanda expressément sur sa vie de se tenir tranquille, sans parler et sans bouger. Puis, retenant son haleine et marchant courbé en deux, il se glissa furtivement dans la tourelle, l'épée nue à la main, et disparut. Effrayé de se voir laissé là tout seul, au milieu de cette scène de destruction, après tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait entendu ce soir même, Salomon l'aurait suivi, si l'air et les manières de M. Herdel n'avaient pas eu, en lui défendant d'avancer, quelque chose dont le souvenir le tenait, pour ainsi dire, enchanté. Il resta donc comme enraciné à la place où il était, osant à peine respirer, montrant dans tous ses traits un mélange de surprise et de crainte. Encore des cendres qui glissent et roulent en bas, très très doucement, puis encore, comme si elles s'écrasaient sous un pied furtif. Et puis, voici une figure qui se dessine dans l'ombre, grimpant très doucement aussi, et s'arrêtant souvent pour regarder en bas. La voilà qui poursuit son ascension difficile et qui disparaît aux yeux encore une fois. La voici qui reparaît dans un jour obscur et douteux. Elle est un peu plus haut, pas beaucoup, parce que le chemin est escarpé et pénible. Elle ne peut avancer que lentement. Quel est donc le fantôme imaginaire qu'elle poursuit là-haut? Et pourquoi donc est-elle toujours à regarder en bas? Cet homme ne sait-il pas qu'il est seul? Est-ce que, par hasard, il aurait perdu l'esprit dans les pertes cruelles qu'il a pu faire cette nuit? S'il allait se jeter la tête en bas du haut de ce mur chancelant? Salomon, dans sa frayeur, se sentait défaillir et joignait les mains, ses jambes tremblaient sous lui, une sueur froide inondait son pâle visage. S'il en avait eu la force, il aurait désobéi aux ordres de M. Herdel, mais il était incapable de prononcer un mot ou de faire un mouvement. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de tenir sa vue fixe sur un petit coin de clair de lune, où il allait voir sans doute apparaître la figure, si elle continuait de monter, et quand il la verrait arriver là, il essayerait de l'appeler. Encore des cendres qui glissent et tombent, des pierres qui roulent en bas avec un bruit lourd et sourd. Salomon tenait sans cesse ses yeux tendus sur le coin de clair de lune. La figure avançait toujours, car on voyait déjà son ombre sur la muraille. Ah, la voilà qui reparaît, la voilà qui se retourne, la voilà. Le sacristain, frappé d'horreur, avait poussé un cri qui avait percé l'air. Le revenant, le revenant. L'écho n'avait pas encore achevé de répéter ce cri qu'une autre figure à son tour passait au clair de la lune, se jetait sur la première, la terrassait, lui mettait un genou sur la poitrine et lui serrait la gorge avec ses deux mains. « Scélérat ! » cria M. Herdel d'une voix terrible, car c'était lui. « C'est donc toi qui, par une ruse infernale, te fais passer aux yeux des hommes pour mort et enterré, mais que le ciel avait réservé pour ce jour de vengeance. Enfin, enfin je te tiens, toi !» dont les mains sont teintes du sang de mon frère et de celui de son fidèle serviteur que tu as répandu après pour cacher ton premier crime. Toi, Rudge, double assassin, double monstre, je t'arrête au nom de Dieu qui vient de te remettre entre mes mains. Non, non, tu aurais la force de 20 hommes comme toi, ajouta-t-il en voyant que le meurtrier luttait contre ses étreintes. Non, tu ne m'échapperas pas. Tu resteras cette nuit dans mes serres. »